tout à l'heure. 10h30 à Paris, 8h30 en temps universel. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Juan, bonjour à tous. Afrique Matin, un anniversaire à la une aujourd'hui. Les 80 ans de la capitulation de l'Allemagne nazie, décision qui met fin en Europe à la Seconde Guerre mondiale. Nous revenons dans ce journal sur le rôle joué par les Africains au sein notamment de l'armée française. Dans ce journal également, le conclave qui se poursuit au Vatican. L'Église catholique en quête d'un nouveau pape. Période aussi d'interrogation et de réflexion pour les fidèles. La Côte d'Ivoire, avec la remise en liberté provisoire du syndicaliste Ghislain Assi. Il sera jugé sur le fond le mois prochain. Et puis le football, reportage dans les rues de Paris après la qualification hier du Paris Saint-Germain pour la finale de la Ligue des Champions aux dépens d'Arsenal et grâce à un but d'Achraf Hakimi. Ce jeudi est donc un jour de mémoire, 80 ans après le 8 mai 1945. Mémoire de la fin en Europe de la Seconde Guerre mondiale avec la capitulation de l'Allemagne nazie. Conflit le plus meurtrier de l'histoire avec au moins 60 millions de victimes. Et la victoire célébrée aujourd'hui par les Occidentaux, demain par les Russes, a aussi eu un impact sur le continent africain. Avec des centaines de milliers de combattants impliqués sous uniforme français et britannique et une participation à l'effort de guerre qui ouvre la voie à la décolonisation. François Mazet.
Près de 10% de l'armée française mobilisée en 1940 est composée de troupes maghrébines, africaines et malgaches, soit 500 000 hommes. Au cours de la débâcle, les soldats noirs sont ciblés par les nazis, beaucoup sont exécutés, une France s'avoue vaincue, une autre poursuit le combat. Le 26 août 1940, le Tchad est le premier territoire à rallier le général de Gaulle. Son gouverneur Félix Eboué prend la tête de l'Afrique équatoriale française pour en faire une plateforme économique et stratégique majeure. N'Djamena est le point de départ des premiers succès militaires de la France libre en Libye. Brazzaville devient sa capitale jusqu'en 1943 lorsqu'Alger accueille les autorités transitoires. Les soldats maghrébins et les tirailleurs forment le gros de la nouvelle armée, débarquent en Italie puis en Provence avant d'être souvent écartés en vertu du blanchiment des troupes exigé par les Américains. Au total, 21 500 Africains et Malgaches sont tués entre 1939 et 1945, ainsi que 16 600 Maghrébins. Ce combat au nom de droits universels créera aussi des déceptions en raison de promesses émancipatrices non tenues. Le conflit servira d'accélérateur au mouvement de décolonisation.
François Mazet. Et le 8 mai en Algérie, c'est surtout la mémoire des massacres de Sétif, Guelma et Kerata, avec la mort d'au moins 20 000 Algériens tués par l'armée française et des milices de colons lors des mois de mai et juin 1945. Un dossier complet à retrouver sur RFI.fr, onglet Afrique. RFI. Fumée noire. Hier, au Vatican, les cardinaux de l'Église catholique n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le nom d'un nouveau pape. Et leur conclave se poursuit donc ce jeudi. 4 nouveaux tours de scrutin, si nécessaire, sont prévus. Aujourd'hui, 2 ce matin, 2 autres cet après-midi, pour cette procédure qui se déroule dans le plus grand secret. Alors qu'aujourd'hui, l'Afrique est le continent où l'augmentation du nombre de catholiques est la plus marquée. Et des fidèles aussi, attirés parfois par les églises dites du réveil ou de la prospérité. Et pour le théologien et anthropologue des religions Pierre Diarra, il serait intéressant pour l'Église catholique d'y voir une source de réflexion.
Essayons de voir pourquoi est-ce que nos chrétiens des églises classiques, si je peux m'exprimer ainsi, vont dans ces communautés et dans ces églises. Est-ce que ce ne veut pas signifier qu'il y a un manque peut-être de fraternité ou de solidarité vraie dans nos églises classiques et qu'ils vont chercher dans ces églises donc une certaine mise en pratique qui se contente pas simplement de mots et de prières, mais qui va aider celui qui est dans le besoin, celui qui n'a pas les moyens pour se soigner. Donc la communauté va voir comment est-ce que on peut s'organiser pour aider cette personne à se soigner. Des choses très concrètes que les Africains attendent. Au lieu de regarder en disant « Ah, nos fidèles vont dans ces églises », essayons de voir qu'est-ce qu'ils vont chercher et comment est-ce que nos églises classiques pourraient s'interroger et peut-être améliorer leur manière d'accueillir la parole de Dieu et de la mettre réellement en pratique dans le contexte africain.
Le théologien et anthropologue des religions, Pierre Diarra, joint par Amélie Tulé. Décision prise officiellement au nom de l'ordre public au Mali. Les militaires au pouvoir à Bamako suspendent jusqu'à nouvel ordre les partis politiques et les associations à caractère politique. Des partis maliens qui craignent d'être dissous, qui ont mobilisé samedi dernier à Bamako et qui prévoient une nouvelle manifestation demain. Au Sénégal, c'est aujourd'hui que les députés examinent une demande de la justice sénégalaise à propos de plusieurs anciens ministres, à propos de leur renvoi ou non devant une cour spéciale. 5 ministres accusés de malversations présumées, liées notamment à un fonds de lutte contre le coronavirus. RFI 8h35 à Abidjan, remise en liberté provisoire hier en Côte d'Ivoire, décision de la cour d'appel pour Ghislain Dugarry Assi, le syndicaliste désormais sous contrôle judiciaire, lui qui avait été condamné le mois dernier à 2 ans de prison ferme pour coalition d'agents publics et entrave au fonctionnement du service public, après avoir été interpellé et condamné par le tribunal correctionnel en plein contexte de grève dans les écoles publiques. Binta Diagne.
Dès l'ouverture du procès, les avocats de Ghislain Dugarry demandent sa mise en liberté d'office, car selon eux, le mandat d'arrêt du procureur a expiré le 9 avril dernier. La cour d'appel a finalement suivi les réquisitions du parquet et ordonné la mise en liberté provisoire de Ghislain Dugarry Assi. Le syndicaliste est sous contrôle judiciaire et doit se présenter au greffe tous les premiers lundis du mois. Ses avocats sont en partie satisfaits, maître Léon-Paul Botteau, avocat de la défense.
Pour nous, c'est un soulagement, mais en même temps, c'est l'occasion de dire que notre demande de mise en liberté d'office, pour nous, était amplement justifiée. Parce que ce que nous avons dit ce soir, c'est que quand le tribunal correctionnel saisi par le procureur se prononce en vertu de l'article 489, ce tribunal avait la faculté de décerner un mandat de dépôt. Or, ce tribunal-là, à la lecture de la décision, n'a pas décerné de mandat de dépôt. Donc nous estimons que depuis le 9 avril, M. Assi Dugarry était en détention arbitraire.
Le procès sur le fond a été renvoyé au 11 juin. L'enjeu sera de débattre sur les libertés syndicales et notamment de chercher à savoir s'il est possible de mener des activités syndicales les jours ouvrés, indiquent les avocats de la défense. Binta Diagne, Abidjan. RFI.
Dans l'actualité ce matin également, la guerre au Soudan et l'agence France Presse qui fait état ce matin de nouveaux bombardements comme ces 4 derniers jours sur la ville de Port-Soudan, là où le gouvernement soudanais s'est replié. Des raids attribués au FSR du général Emeti, et alors que les autorités soudanaises accusent les Émirats Arabes Unis de soutenir les FSR, elles vont même désormais plus loin en affirmant qu'Abu Dhabi a directement bombardé le territoire soudanais. En République démocratique du Congo, le PPRD, le parti de l'ancien président Joseph Kabila, fait savoir qu'il entend reprendre ses activités politiques. Ce parti, suspendu par un arrêté du ministère de l'Intérieur il y a 2 semaines, alors que l'ancien chef de l'État est soupçonné par les autorités de lien avec les rebelles de l'AFC-M23, le PPRD estime que la mesure ne durait en fait que 2 semaines. Et puis ce matin, notre invité Afrique était l'opposant, Martin Fayoulou. Avec lui, on a parlé de la stratégie face au conflit dans l'Est, relations avec le président Tshisekedi et avec les autres opposants. Entre avec Christophe Boisbouvier, à retrouver sur RFI.fr. Enfin, le football est le finaliste du prix Marc-Vivien Foé, du meilleur joueur africain de Ligue 1, qui a particulièrement brillé hier en demi-finale de la Ligue des Champions. Le Marocain Achraf Hakimi, qui a participé activement en marquant hier à la qualification du PSG pour la finale, aux dépens d'Arsenal. Et pour RFI, Baptiste Leduc s'est mêlé à la soirée festive des supporters parisiens.
On est des enfants du Paris Saint-Germain. On attend ça depuis des années. En fait, là, ce qui se passe, c'est toute la frustration qu'on a accumulée pendant des années qu'on est en train de relâcher. Et c'est notre seule fierté, c'est le PSG. Ce soir, Paris va brûler, mais dans le bon sens. On va fêter tout en gardant le respect, bien évidemment.
Merci Hakimi.
Merci Hakimi.
Merci Hakimi.
Merci Paris, on est en finale. Ouais, merci Paris.
En finale, monsieur, Paris en finale.
Mais est-ce que Paris va gagner la finale?
Mais bien sûr que oui, elle va la gagner, monsieur. Bien sûr que oui, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus.
Paris gagne la finale.
Paris gagnera la finale, monsieur.
Là, on arrive en finale et on va prendre la coupe cette année, c'est pour nous, les gars.
On a pris toutes les équipes de Première Ligue.
On a éliminé la Première Ligue.
Un rendez-vous en finale, les gars. On va la ramener à Paris.
Allez, c'est pour nous.
Voilà.
Paris.
reportage de Baptiste Leduc qui plante le décor pour votre débat, Juan Gomez.
Évidemment, Xavier Besson, je ne vous demande pas un pronostic pour la finale.
On verra un peu.